Vous êtes sur RTL.
30.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Deux heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs entre 12h30 et 14h30. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, ce nouveau coup dur pour les agriculteurs. La nuit dernière a été la plus froide jamais enregistrée en avril depuis 1947. Dans ce journal également, l'Europe qui discute de nouvelles sanctions contre Moscou. Et puis la réaction de Nicolas Sarkozy après les sifflets entendus hier au meeting de Valérie Pécresse.
À 12h40, c'est Christiane Lambert, la présidente de la FN. NSEA qui sera l'invité de RTL Midi pour évoquer les conséquences du gel de la nuit dernière. Et à 12h50, un jour, une proposition à 6 jours du premier tour de la présidentielle. On continue de passer au crible les propositions des candidats aujourd'hui. L'énergie.
Notre question du jour sur RTL.fr. Justement, avez-vous réduit votre consommation d'électricité ce matin comme c'était conseillé? Vous dites oui à 40%, non à 56%. La météo, c'est avec vous Louis Baudin, bonjour.
Bonjour Amandine.
Bonne nouvelle, les températures remontent.
Oui, on peut commencer par ça, effectivement, des températures en hausse cet après-midi, entre 8 et 11 degrés dans la moitié nord. On franchira de nouveau les 10 degrés, 11 à 13 ou 14 degrés dans le sud, jusqu'à 16, 17 degrés même près de la Méditerranée. Alors tout ça avec un temps très ensoleillé dans la moitié sud. Il restera quelques nuages, quelques averses quand même entre les Alpes du Sud et la Corse, voire quelques flocons en montagne. Et puis pendant ce temps-là, au nord de la Loire, ça sera l'inverse, avec un ciel qui va devenir de plus en plus nuageux, avec quelques pluies, on l'a déjà, entre la Bretagne et le Nord-Pas-de-Calais. Renforcement du vent auprès de la Manche. Et tout cela va malheureusement s'aggraver au cours de ces prochains jours.
Merci Louis, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Et pour commencer, on vous emmène à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne. L'heure est là-bas ce matin, la constatation des dégâts dans bon nombre d'exploitations agricoles. Le froid de la nuit dernière pourrait en effet avoir de lourdes conséquences, Patrick Hisson.
Oui, sur l'exploitation de Françoise Roque, ce sont les prunes qui ont gelé, de petites prunes dans les vergers sur les coteaux, des endroits qui n'avaient jamais été victimes du gel. Eh bien, c'est cette production de prunes qui a subi des dégâts considérables.
J'ai du mal à en trouver une qui soit correcte, c'est-à-dire un vert un peu pétard avec un noyau blanc à l'intérieur. Donc moi, ça me fait dire que c'est un verger extrêmement touché, où je pense qu'il est touché au bas mot à 80%.
Cette productrice n'a pourtant pas ménagé ses efforts sur les deux dernières nuits où la température est descendue ici jusqu'à moins 5 degrés.
Entre l'antigel par aspersion et les bougies, on a passé quasiment toute la nuit debout. Deux nuits très difficiles, oui. Et peut-être pour des résultats qui sont pas si probants que ça. On a l'impression de se battre contre quelque chose qui devient complètement fou à gérer.
Il faudra attendre au moins un mois pour connaître précisément l'étendue des dégâts, mais d'ores et déjà, les aides de l'État sont sollicitées. Elles avaient permis aux producteurs de tenir le coup après le gel de l'an dernier.
À Moissac, le reportage pour RTL de Patrick Hisson, fait exceptionnel. Cette vague de froid a touché toutes les régions, ou presque, hein, 80% du territoire. Louis, cette nuit a tout simplement été la plus froide depuis 1947. Pour un mois d'avril.
Oui, avec deux raisons principales pour un début avril. Les températures qui sont descendues très bas cette nuit en raison du ciel dégagé, jusqu'à moins 9, moins 10 degrés. Et ça, sur beaucoup de régions. On a eu des gelées quasiment partout. Donc, comment est-ce qu'on calcule une journée la plus froide? On fait la moyenne entre beaucoup de stations installées sur tout le territoire, entre le matin et l'après-midi. On obtient ce qu'on appelle un indice quotidien. Et celui-ci est le plus froid depuis 1947, effectivement.
Merci beaucoup, Louis. On fera le programme météo de la semaine. Ça s'arrange un peu, en tout cas, côté
un
température.
Du côté du réseau électrique, pas de panne, on a même consommé plutôt moins d'électricité que prévu.
71 000 mégawatts pour le pic à 9h15 ce matin. RTE, qui gère le réseau, tablait sur 73 000. Bonjour Éric Vanier.
Bonjour.
Pourquoi avoir demandé aux Français de réduire leur consommation? C'est vrai que les températures étaient exceptionnelles pour un mois d'avril, mais en hiver, on a l'habitude. On produit moins d'énergie actuellement, c'est ça?
Oui, près de la moitié du parc nucléaire est en ce moment à l'arrêt. C'est du jamais vu. 27 réacteurs sur 56 qui ne produisent rien, pour plusieurs raisons. Nos centrales sont vieillissantes et plus elles prennent de l'âge, plus les incidents se multiplient. Le programme de maintenance a pris beaucoup de retard à cause de la crise du Covid, confinement, absentéisme. Et troisième raison, normalement dès la fin de l'hiver, dès le retour des beaux jours, EDF amplifie ses opérations d'entretien en misant sur une baisse de la demande d'électricité. Sauf que là, coup de froid inattendu, la production est insuffisante. Ajoutez à cela la fermeture récente de la centrale au charbon de Saint-Avold en Moselle, peut-être pas définitive à cause de la situation internationale, mais en attendant, elle ne produit plus rien alors que l'on en aurait bien besoin.
Éric Vanier du service économie de RTL. C'est dans ce contexte de tension sur le plan de l'énergie que l'Union européenne discute en ce moment même de nouvelles sanctions contre Moscou. Sanctions réclamées par plusieurs pays, dont la France, après ces images effroyables. Ces cadavres de civils entassés dans des fosses communes ou gisant sur les routes autour de Kiev après le départ des forces russes. Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour.
Quelles peuvent être ces nouvelles sanctions?
Alors Emmanuel Macron évoque des mesures pour interdire l'importation depuis la Russie du pétrole et du charbon. Le chef de l'État n'a pas parlé du gaz, ce qui est quand même le gros morceau. Couper le gaz, ça a été évoqué par le ministre allemand de la Défense hier soir. Les pays baltes ont déjà pris la décision. L'Estonie, la Lettonie, la Lituanie sont approvisionnés depuis vendredi par une réserve stockée sous terre en Lettonie.
Plusieurs pays dont l'Espagne évoque un possible génocide.
La France, elle, pour l'instant, parle de crime de guerre. Quelle est la différence?
Alors, ces notions sont définies dans le droit international. Un crime de guerre, c'est par exemple s'attaquer à des civils. Pour un génocide, il faut prouver l'intention de détruire un groupe national, ethnique, religieux ou racial, comme le génocide des Tutsis au Rwanda en 94. Le ministre polonais, Mateusz Morawiecki, déclare aujourd'hui la nécessité d'une commission d'enquête internationale sur le génocide commis, selon lui, par l'armée russe. Monsieur le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine? Qu'avez-vous obtenu? On ne débat pas, on ne négocie pas avec des criminels. Les criminels doivent être combattus.
Bénédicte Tassard, du chef du service étranger de RTL. Des accusations rejetées en bloc par la Russie qui assure que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre. Sophie Jousselin a pu recueillir pour RTL le témoignage de Serki, dont les parents vivent à Motidjin, à l'ouest de Kiev, et où la mère a été tuée.
Il n'y avait plus de gaz, plus d'électricité, plus d'eau. Il faisait froid dans la maison. Il devait faire du feu pour préparer les repas. Un jour, l'armée ennemie s'est approchée, a tiré sur la voiture, l'a détruite. Le garage a été abîmé. La maison aussi. Il faisait ça par plaisir. Mon père avait peur. Un proche m'a dit que les envahisseurs ont pris le maire en otage avec sa famille. Et on m'a dit qu'ils les avaient tués. Mais je ne peux pas confirmer.
Un témoignage requis pour RTL par Sophie Jousselin.
La présidentielle, J-6 avant le premier tour.
Et plus que 5 jours de campagne, hein, puisqu'elle s'achève, on le rappelle, vendredi soir à minuit. Valérie Pécresse était ce matin l'invitée de RTL et elle est notamment revenue sur ça.
Nicolas Sarkozy.
Contre Nicolas Sarkozy lors de son meeting hier porte de Versailles, le geste d'électeur triste, a dit tout à l'heure sur RTL la candidate des Républicains. Et l'ancien président, lui, l'a pris comment, Benjamin Sportouche?
Ben écoutez, bien mal, pour ne pas dire très mal. Selon nos informations, Valérie Pécresse a décroché son téléphone hier après le meeting pour appeler Nicolas Sarkozy en vain, car l'ancien président n'a pas pris son appel, tout simplement. Dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, on dit qu'il prend tout cela, je cite, avec distance et philosophie, mais dans les faits, l'ancien président a été blessé par ces sifflets venant de sa propre famille politique, inimaginable, vous le savez, il y a encore 6 mois. Donc autant vous dire que la candidate LR peut oublier un soutien dans la dernière ligne droite, c'est définitif. Nicolas Sarkozy ne prendra pas position d'ici le premier tour, nous ont confirmé ses proches, pour personne. Sur RTL, en décembre, pourtant, il avait affirmé qu'il se prononçait. Alors bien sûr, ce silence sera interprété comme une neutralité bienveillante à l'égard d'Emmanuel Macron, ce qui arrange bien aussi le président sortant, un soutien pas trop bruyant pour ne pas refroidir la gauche. Et pendant ce temps, eh bien François Fillon vient, lui, de tweeter son soutien appuyé à Valérie Pécresse, manière aussi de se différencier de Nicolas Sarkozy. La recomposition, la décomposition de la droite au choix se poursuit, et avant même la défaite de sa championne.
Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL. Dans l'actualité également, Nestlé qui se défend après les accusations de plusieurs anciens salariés de l'usine Buitoni de Caudry.
C'était catastrophique. Quand je voyais tout ce qui traînait en jambon, en champignons, en fromage, c'était très sale partout. On a déjà vu des pizzas où il y avait des morceaux de gants dessus, mais on ne pouvait pas les rattraper.
Bonjour Agathe Landais.
Bonjour.
Ce midi, Nestlé est formel. Hein, il n'y a aucun lien, le groupe, entre ces accusations et les contaminations à la bactérie E. coli.
Oui, l'entreprise souligne que ces témoignages proviennent d'anciens salariés, souvent anonymes. Sous-entendu, ils ne sont pas très fiables. Selon eux, les salariés qui travaillent toujours en poste, eux, ne reconnaissent pas leur usine dans ces descriptions. Sur les photos prises à l'intérieur de l'usine, qui ont beaucoup circulé ces derniers jours, Nestlé souligne qu'elles ont été publiées il y a déjà plus d'un an. temps sur Internet, qu'entre-temps, l'usine a fait l'objet de deux contrôles des autorités sanitaires et qu'aucun des deux n'a relevé de problème d'hygiène. Enfin, concernant les contaminations à la bactérie E. coli, l'entreprise rappelle que des biologistes réalisent en ce moment même des prélèvements dans toute l'usine et que seules ces analyses permettront de comprendre l'origine de la bactérie.
Et on rappelle que ce sont 41 cas qui ont été confirmés de contamination et deux décès. Merci à vous, Agathe. Encore 102 000 nouveaux cas de Covid hier, mais on observe depuis le milieu de la semaine dernière un tassement de la courbe, ce qui peut laisser penser qu'on approche du pic. Le nombre d'hospitalisations, lui, en revanche, remonte, 22 251 contre 20 000 le 27 mars, il y a une semaine.
Croyez-vous que je sois jaloux ? Pas du tout, pas du tout. Ils étaient ce matin des invités exceptionnels de RTL.
Les Dutronc, père et fils, en pleine répétition pour leur tournée. Première date le 12 avril, mardi prochain, à Courbevoie. Jacques Dutronc sera donc loin de sa Corse natale pour le premier tour dimanche, mais il l'assure, il votera bien.
J'ai fait une procuration, mais je connais bien les gens là-bas, ils vont pas voter ce que j'ai demandé, c'est-à-dire le roussellement, hein. Et ils vont mettre je sais qui, voilà. Non mais si sur la procuration tu pouvais mettre pour qui tu votes, mais qui va vérifier puisque c'est secret ? Je l'ai fait aussi, hein, ceci. Hein. On m'a demandé de voter pour des gens, je peux te dire que... il y a le mec, il a une voix, mais bon, enfin voilà.
Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. J'ai confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre.
Jacques Dutronc, micro RTL de Steven Bellary.
Jacques Lanzmann avait écrit les paroles de cette chanson, L'Opportuniste. Dans un instant, notre premier débat, Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, qui sera l'invitée de RTL Midi pour évoquer les conséquences du gel de la nuit dernière.
RTL le vélo. RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Ça fait 35 ans que je suis installée, je n'ai jamais vu geler les coteaux, même en 91, on a eu des récoltes dans les coteaux. C'est vraiment atypique, oui. On a l'impression de se battre contre quelque chose qui devient complètement fou à gérer.
On en parlait il y a quelques minutes, la nuit dernière a donc été la plus froide pour un mois d'avril depuis 1947, un cauchemar, vous l'entendez, pour des milliers d'agriculteurs. Alors peut-on déjà dresser un premier bilan ? Faut-il s'attendre à avoir des récoltes entières perdu. On en parle avec la présidente de la FNSEA. Bonjour Christiane Lambert.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. La première particularité de cette vague de froid, on le disait, c'est qu'elle a touché toutes les régions, ou presque, et donc j'imagine tout type d'exploitation agricole.
Ce qui est le plus touché, ce sont les arboriculteurs, puis ensuite les viticulteurs. C'est vrai que les arbres fruitiers qui avaient bien redémarré en raison des chaleurs de la semaine dernière, rappelez-vous, nous avions 22, 23, 24 degrés, la nature ne connaît que les températures, ne connaît pas les jours, et donc les arbres fruitiers avaient redémarré, certains bourgeons avaient fait les fleurs, et dans ce cas-là, c'est très difficile à protéger. Donc il y a des régions qui sont beaucoup plus touchées, c'est le cas du Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Tarn-et-Garonne, Dordogne, mais aussi la Marne, l'Aisne, l'Eure, ces départements où il y a aussi pas mal d'arbres fruitiers, je peux citer aussi le Beaujolais. Donc finalement, c'est beaucoup de régions françaises qui vont être victimes des dégâts du gel cette année encore.
Tout à l'heure, on avait une productrice de prunes qui nous expliquait que 80% de sa récolte avait l'air endommagée. On est dans cet ordre d'idée-là ?
Pour certains, ça sera 80%, ben peut-être 100%. Vous savez, quand la température descend en dessous de moins 3, c'est très très difficile de protéger les arbres fruitiers. Les arboriculteurs disent jusqu'à moins 3, on sait faire. Mais si ça descend plus bas, on passe son temps dans les vergers la nuit, essayer de trouver des solutions, réchauffer, faire fonctionner l'éolienne pour redescendre de l'air chaud, utiliser l'aspersion avec la réserve d'eau pour envelopper les bourgeons dans des petits cocons comme des petits igloos pour les garder à 0 degré. Mais les efforts sont vains parce que moins 5, c'est vraiment, vraiment difficile à protéger.
Madame Lambert, si on veut prendre un exemple, pas de Mirabelle cette année ?
Ah, écoutez, en tout cas, dans la Marne, il a fait moins 7, dans la Meuse, à Mourmelon. Donc, quand il fait moins 7, là, c'est certain que les Mirabelles ont dû énormément souffrir. Mes collègues que j'ai eus ce matin sont très inquiets. Je les ai eus très tôt, au lever du soleil. Ils me disent, on attend le milieu de journée pour voir ce que ça donne. Mais ils se sont des habitués. Et quand les récoltes sont comme ça à 7 heures, toutes crispées, malheureusement, très vite, la partie verte devient marron. Et dans ces cas-là, c'est foutu. Il y a déjà des petits fruits qui sont formés. On a vu des abris abricots qui étaient verts, qui étaient jolis d'ailleurs, qui étaient prometteurs. Mais là, à moins 5, ils n'auront pas pu résister non plus. Vous savez, la nature est cruelle. C'est pour ça qu'il faut vraiment adapter nos moyens de production aux techniques d'aujourd'hui, pouvoir faire plus d'astersions, réchauffer plus des bougies, des éoliennes, tout ce qu'on voit aujourd'hui qui est utilisé, mais il faut le renforcer davantage.
Aujourd'hui, les agriculteurs ne sont pas suffisamment équipés, si j'ose dire, pour faire face à ça ?
Tous ne sont pas totalement équipés parce que c'est très coûteux. Tout le monde n'a pas une réserve d'eau en proximité pour protéger par aspersion. Ce qui est le plus efficace, c'est la protection par aspersion, c'est-à-dire pulvériser comme une petite douche, une vapeur sur les bourgeons, sur les fleurs. Ça fait une protection, un cocon de glace. Et là, ça reste à 0 degré. Donc à 0 degré, lorsqu'il y a des gels le matin, la partie n'est pas abîmée. Alors que si ça descend à moins 3, moins 4, moins 5, malheureusement, c'est mort. Et même s'il y a un redoux, un journaliste me disait ce matin, mais s'il y a un redoux demain, oui, mais quand c'est mort, c'est mort. Même avec un redoux, ça ne reviendra pas.
Et Jean Castex a évoqué l'ouverture, si nécessaire, d'un fonds d'urgence pour les départements les plus concernés. J'imagine c'est ce que vous réclamez.
Exactement. D'abord, la classification en calamité agricole et puis un fonds d'urgence comme l'année dernière, puisque une loi a été votée, décidée d'ailleurs très vite après le gel de l'année dernière et votée au mois de mars par les députés et les sénateurs. Tant mieux. Mais elle n'entre en vigueur qu'au 1er janvier 2023, parce que tous les dispositifs sont à écrire. Donc pour cette année encore, la solidarité nationale doit jouer. Et puis il va falloir sauver tout ce qu'on peut sauver, parce que sinon nous allons manquer de fruits comme l'année dernière. Et quand les fruits sont rares, ils sont chers, et donc certains consommateurs ne peuvent pas y avoir accès.
Et quand vous dites que le fonds d'urgence a permis de pallier tout ça pour les agriculteurs, tous ceux qui devaient le toucher l'ont touché ?
Oui. Oui, les dispositifs ont été conduits avec diligence. Il y avait d'abord une première enveloppe aux préfets, à discrétion des préfets, pour les situations de trésorerie les plus dégradées. Et puis ensuite, tout au long de l'année, alors nous avons beaucoup travaillé, ça s'est passé sans difficulté, il a fallu renégocier pour faire entrer le maximum de gens dans les dispositifs. Ça ne compense pas la totalité de la perte, mais que ce soit des aides de trésorerie, des prises en charge de cotisations sociales ou des aides en chômage partiel pour les salariés des vergers ou des vignes qui n'avaient plus de travail puisqu'il n'y avait plus de production. Il y a eu plusieurs dispositifs qui ont permis de soutenir et de porter à bout de bras les exploitations.
Madame Lambert, l'année dernière, il y avait eu déjà un épisode de gel en avril.
Oui.
Les conséquences pour les pêches, pour les abricots, pour les cerises ou pour les poires, vous aviez pu les évaluer ? Ça avait été aussi dramatique qu'on avait imaginé au départ ?
L'année dernière, dans la vallée du Rhône, que j'avais visitée trois jours après, ça a été 100% de perte pour pas mal de vergers en abricots et en pêches. Cette année encore, ce sont les fruits à noyaux qui sont beaucoup touchés. Dans le Lot-et-Garonne, les prunes, notamment, et les pruneaux d'Agen, qui donnent les pruneaux d'Agen, ont souffert pour beaucoup ces pertes à 100%. Ce sont aussi les cerises. Dans ma région, en Maine-et-Loire, il a fait moins 5. Donc à moins 5, les cerises ne résistent pas. Et puis les fruits à pépins, les pommes, les poires, qui à moins 5 non plus n'arrivent pas à résister s'il n'y a pas d'intense protection. Donc oui, nous allons manquer de récoltes françaises.
Merci beaucoup, Madame Lambert. Et effectivement, on ne peut être qu'en empathie avec tous les agriculteurs qui doivent nous écouter et espérer des bonnes nouvelles ces prochaines heures. À 12h50, un jour, une proposition, à 6 jours du premier tour de la présidentielle. On continue de passer au crible les propositions des candidats. Et aujourd'hui, c'est l'énergie avec Virginie Garin. À tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes. RTL Midi
avec Amandine Bégaud et Pascal Pro, présidentielle 2022
J-6.
Et comme chaque jour jusqu'au premier tour de cette présidentielle, un jour, une proposition. RTL Midi passe donc au crible les propositions des candidats. Aujourd'hui, alors que RTE a demandé à chacun de nous de faire des efforts pour éviter les coupures de courant, on a choisi de se pencher sur la question de l'énergie. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour, bonjour à tous.
En petit préambule, un point sur lequel tout le monde ou presque est d'accord, on ne peut pas continuer comme ça, il faut changer notre modèle énergétique.
Oui, deux raisons. D'abord, il y a le climat, il faut moins émettre de carbone, donc utiliser moins d'énergie fossile. La France s'est engagée, il va falloir arrêter le charbon, réduire fortement le pétrole, on va garder un peu de gaz, mais la guerre en Ukraine a changé la donne. On voit l'importance d'être indépendant. Alors si on pouvait faire un peu moins avec le gaz et le pétrole russe, ce serait bien. Donc il y a le nucléaire, mais il n'est pas du tout en forme. Si aujourd'hui, ce matin, on nous a demandé de repousser nos lessives, c'est qu'on a 27 réacteurs sur 56 à l'arrêt pour maintenance ou réparation et ça risque de ne pas s'arranger. Nos centrales sont vieilles.
Alors, on va regarder dans le détail ce que propose chacun. Il y a d'abord ceux qui savent ce qu'ils ne veulent pas, par exemple les candidats qui détestent les éoliennes.
Alors ça, c'est le sujet qui divise le plus. Les candidats très à droite n'aiment pas les éoliennes du tout, c'est clair. Marine Le Pen veut interdire tout nouveau projet sur terre et en mer et même démanteler progressivement les parcs qui existent. Éric Zemmour aussi veut les interdire pour préserver les paysages. Nicolas Dupont-Aignan compte même les faire disparaître toutes en 5 ans. Jean Lassalle ne veut pas d'éoliennes non plus, on l'écoute.
L'éolienne, outre le fait qu'elle est d'un apport très très minime, crée des conséquences électromagnétiques sur les champs où elle est installée, au point que même des vaches en meurent. Celles qui sont tout autour, les paysans vous l'expliqueront. Donc c'est une fausse bonne idée.
Alors, aucune étude scientifique ne l'a prouvé. Il y a effectivement des effets plutôt psychologiques sur les riverains de parcs éoliennes.
Et sur les vaches aussi.
Malades. Sur les vaches,
non. Des effets psychologiques, non mais c'est étonnant.
Mais non, justement, il n'y a pas d'effet sur les vaches. Par contre, sur les humains, il y a des problèmes vraiment qui rendent malades les gens. Hein. Des maux de tête, des problèmes cardiaques. Mais on parle plutôt d'un effet psychologique.
C'était au second degré, évidemment, que j'imaginais des effets psychologiques sur les vaches. Si on détruit les éoliennes, ils proposent de développer quoi à la place, les candidats?
Alors, Jean Lassalle, lui, il veut développer des fours à concentration solaire. Ce sont des grands miroirs qui envoient des rayons du soleil vers le même point. Ça crée effectivement beaucoup d'énergie. Il y a un prototype en France qui date de 1949. Bon, il veut reprendre la recherche, ce n'est pas pour tout de suite. Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan veulent, eux, développer à fond le nucléaire. Alors, ce n'est pas non plus évident. Hein. RTE, qui gère le réseau électrique, a bien expliqué récemment que c'était compliqué car beaucoup de réacteurs vont fermer, ils sont anciens, et les ingénieurs français ne savent pas techniquement construire suffisamment de centrales pour les remplacer. Donc, à moins de se remettre au charbon, il faut des énergies renouvelables.
Au contraire, on a des candidats qui veulent se passer du nucléaire.
Alors voilà, il y a ceux qui veulent en finir complètement, mais pas tout d'un coup, progressivement. Yannick Jadot, lui, veut donner un peu de temps, pas beaucoup, hein, mais il se fixe 2035. Jean-Luc Mélenchon, pareil, pas de précipitation pour ne pas faire flamber les prix de l'énergie. Et puis Anne Hidalgo, elle veut sortir du nucléaire aussi et ne pas construire de nouvelles centrales, mais elle est quand même prudente. Écoutez-la.
Sur le nucléaire, très clairement, c'est un choix qu'a fait la France et on ne peut pas s'en passer. Pas avant 2050 parce qu'on a besoin de cette énergie et d'électricité.
Enfin, il y a ceux qui veulent les deux, du nucléaire et des renouvelables, et c'est peut-être finalement une formule de bon sens.
Voilà, alors Emmanuel Macron, Valérie Pécresse ou Fabien Roussel veulent, eux, développer les énergies renouvelables, mais également développer le nucléaire, faire ce qu'on appelle le mix énergétique. Alors, écoutez, Emmanuel Macron, il a compris que les éoliennes terrestres, ça énerve beaucoup de monde, donc il veut freiner le développement des parcs, mais il en faudra quand même.
Ne tombons pas dans la démagogie qui est, au fond, jamais dans mon jardin. Parce que si c'est dans le jardin de personne, ce ne sera jamais en France. Si nous ne produisons pas plus de renouvelables, alors nous continuerons d'importer. Et c'est une bêtise.
Et le président candidat donc de défendre aussi le nucléaire.
Pourquoi il nous faut du nucléaire? Parce que si on produit plus, le renouvelable ne suffira pas. Ceux qui vous disent 100% renouvelable, ce n'est pas vrai. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le renouvelable vous permet de produire davantage, mais le renouvelable continue à avoir un défaut, il est intermittent. Et quand il n'y a pas de vent ou pas de soleil, à ce moment-là, vous avez des coupures d'électricité. Et il n'y a pas de solutions aujourd'hui technologiques stables qui permet de stocker. Et donc, si nous voulons continuer d'avoir les mêmes besoins, la même force et même, comme vous avez compris, faire plus d'électricité, c'est pas vrai qu'en abandonnant le nucléaire, on y arrivera.
Donc il faut un peu de tout. Et pour comprendre, je vous propose de regarder les chiffres à l'instant où on se parle. Aujourd'hui, à l'instant, à midi, le nucléaire ne représentait que 51% de la production d'électricité.
Aujourd'hui.
Maintenant à midi. Heureusement qu'on avait les éoliennes et le solaire qui représentent un quart de notre électricité. Le reste, c'est quoi? C'est le gaz et 1% de charbon. Donc on voit qu'il faut un petit peu de tout. Et il est bien de ne pas avoir, d'avoir plusieurs cordes à notre arc, peut-être.
Merci Virginie.
Eh bien, merci Virginie Garin. Dans un instant, les électeurs ont la parole, encore jusqu'au 24 avril. 31% des personnes n'ont pas encore choisi leur vote. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter? Je ne vous demanderai pas pour qui, bien sûr.
J'imagine bien que vous n'allez pas me demander où je suis, à peu près.
À peu près,
Je peux encore changer.
Virginie, vous savez.
Pareil qu'Amandine, à peu près.
Bon. Eh bien, on est tous à peu près. Il est 12h57. Et il est à peu près 13h. Donc, ça tombe bien, tout de suite.
RTL Midi.